Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'article qui est paru dans le quotidien Libération et qui a été écrit par un groupe de personnes, mais principalement par David Béliard. Alors, qui est David Béliard? David Béliard est le maire adjoint écologiste au transport et à la transformation de l'espace public de la ville de Paris. Vous avez bien entendu, la transformation de l'espace public. Alors évidemment, touchant Paris, le sujet est particulièrement intéressant. Et le sujet de l'article, disons ce qui a nécessité la plume de notre élu écologiste, c'est la série de Netflix « Emily in Paris ». Alors, je pense que si vous ne l'avez pas vue, vous en avez entendu parler. Donc, cette série a eu un succès non seulement dans notre pays, bien sûr, mais mondialement, et elle représente, comme au cinéma, un cadre de prise de vue qui est, dans notre cas, le Paris historique, le Paris fait effectivement des touristes, le Paris de carte postale. Et quand je dis de carte postale, ce n'est pas du tout quelque chose qui doit être péjoratif. Les cartes postales, d'abord, c'est une réalité et on choisit les angles les plus agréable pour envoyer ou pour garder, en tout cas, pour garder le souvenir. Donc, le Paris de carte postale est une réalité d'abord touristique, puisque Paris est probablement la ville la plus visitée au monde, ne serait-ce que, enfin, notre pays, le passage à Paris est quasiment obligé pour les millions de touristes qui viennent chaque année. Et on ne saurait bouder notre plaisir de Français d'être admiré par notre architecture, par notre agencement urbain qui est constitué par des, on peut dire, des strates historiques, mais qui n'en demeurent pas moins aujourd'hui assez remarquables, puisque ça justifie toutes ces migrations touristiques qui ont entre autres avantages de nous amener une manne de devises dont on ne saurait faire fi. Bien, alors, pour revenir à cela, on peut quand même être surpris que ce monsieur, il est dans la transformation de l'espace public s'agissant de Paris. Alors évidemment, s'il s'agissait de quartiers périphériques, de zones qui sont considérées comme ayant été délaissées, que l'on transforme cet espace public, mais là, on a à peu près, on peut dire, les talons, le modèle de la beauté, et on ne voit pas pourquoi on allait le transformer. Alors, les titres de l'article vont nous éclairer un peu plus. Je vous dirai d'abord, la série télévisée américaine charrie une vision stéréotypée de la ville qui n'est pas viable face au dérèglement climatique et à la nécessaire adaptation de la métropole. Bon, alors, on va pas faire un débat sur le réchauffement climatique, mais simplement, c'est un sujet que nous abordons dans son rapport à l'habitation, à l'architecture, et on sait que c'est devenu une sorte de fixation. On a vu notamment des mouvements extrémistes avec des jeunes femmes qui se sont enchaînées Roland Garros pour demander la rénovation des bâtiments, tout ça qui me paraît assez la rénovation thermique, énergétique des bâtiments. Et tout cela, nous avons déjà parlé, mais je vais revenir sur ce sujet. Alors, restons à Emily in Paris. Alors, ensuite, Béliard nous dit « Paris, trop minéral pour y vivre en période de canicule ». Donc en fait, il semblerait que seuls les riches, parce qu'ils peuvent s'enfuir de la capitale pendant les périodes chaudes, et donc la ville est inadaptée, comme beaucoup de métropoles. Donc il faut modifier la ville, et Paris étant trop minérale, bon, on s'en doutait, parce que les gens ne viennent pas pour voir les arbres, ils viennent pour voir des bâtiments. Et des bâtiments avec le rapport qu'il y a entre eux, qui constituent les boulevards, les Champs-Élysées, les grandes avenues, et les places également. Tout ça n'est pas un terrain de foot, et tout ça n'est pas un parc. Alors, les parcs sont aussi intéressants. Le magnifique jardin de Luxembourg, ou même le parc Monceau à Paris, et de nombreux squares et jardins, mais qui sont eux aussi d'ailleurs, tout en étant dévolus au végétal et à l'espace vert, on peut dire par rapport à des traditions autres dans des climats différents comme l'Angleterre, ils sont pour une grande partie durs, en dur et minéraux. Voilà. Donc, il semblerait que on reprend la boutade d'Alphonse Allais qui voulait bâtir les villes à la campagne, évidemment, parce qu'il disait il faut bâtir les villes à la campagne parce que l'air y est bien plus pur. Bon, il s'agit d'une plaisanterie, bien sûr. Mais là, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. On veut transformer nos villes en campagne. Et certaines villes, peut-être, le mériteraient. Mais Paris, bon, là, c'est quand même quelque chose d'assez effarant. Alors, dans le troisième paragraphe de son texte, qui fait une page entière, il s'agit, donc, je lis et je dis exactement ce qui est écrit, repenser le patrimoine de la ville et son esthétisme. D'abord, sur un plan grammatical, je pense qu'il faudrait dire son esthétique. L'esthétisme, c'est autre chose. C'est plutôt péjoratif. Le mot est impropre. Bon, mais trêve de tracasserie grammaticale. On va parler du cœur du sujet et de la transformation donc de Paris telle qu'elle est proposée. Alors, on peut parler de la voiture individuelle, etc., mais il s'agit de mesures qui vont être radicales. Alors, la plus étonnante, et c'est celle-là sur laquelle je devrais parler, c'est le changement de la couleur des toits de Paris. Alors, comme l'on sait, Paris est une ville dans lequel il y a des toits qui sont pour l'essentiel en zinc et également en ardoise. Bon, il y a très peu de tuiles. Et donc, on a des toits gris avec une pierre qui est une pierre beige. C'est la couleur de Paris. Alors, Béliard nous dit, les toits foncés de Paris, si caractéristiques de la capitale, pâtissent d'une très mauvaise isolation. Donc, on ne voit pas très bien le lien entre l'isolation et la couleur des toits. Et s'il a une mauvaise isolation, il suffit d'en mettre une bonne. L'isolation, elle n'est pas sur le toit, elle est sous le toit. Les appartements des derniers étages, souvent occupés par les plus modestes, alors là, je crois que c'est une vision quand même qui est une vision du 19e siècle. Aujourd'hui, ça a changé avec les ascenseurs, deviennent, je continue, des fours insupportables en période de forte chaleur. Alors, il y a la solution. Alors, c'est vrai qu'effectivement, si un toit n'est pas isolé, bon, ceci étant, qu'il soit en tuile, en zinc, en ardoise, c'est à peu près la même chose. Une solution simple pour amoindrir cet effet serait de les peindre en blanc avec une peinture réverbérante. Mais pour cela, sommes-nous prêts à abandonner la colorimétrie parisienne? Bon, en fait, sa réponse, c'est que lui, il est prêt. Alors là, c'est quand même quelque chose d'assez sidérant. D'abord, sur un plan pratique, s'il connaissait quelque chose, de la peinture sur des toits en ardoise et sur les toits en zinc, je crois que même si on a une grande amélioration sur les manières sur les composants et les pigments des peintures, on n'a pas quand même de peinture qui puisse se tenir sur les toits. Et on aurait très rapidement, même si ce genre de mesure était acceptée, on aurait des toits pelés et évidemment salis tout de suite, bon, ne serait-ce que par les pluies, avec les pigeons et la pollution qui, malgré tout, n'est pas rien. Mais le plus étonnant, c'est il y a deux choses qui sont étonnantes. La première, bien sûr, c'est de fait que on puisse faire une modification, quelque chose d'assez effarant. Ce qui ne se produit, c'est que quelques quartiers, les Casbah d'Afrique du Nord, dans lesquels les toits sont blancs, c'est quelque chose qui est tout à fait les villes du sud de l'Espagne, des villes comme Cadiz, par exemple, n'ont pas les toits peints en blanc, ou Séville, ou Alger, ou Oran, enfin bon, ou Le Caire. Les toits ne sont pas peints en blanc. Il s'agit que de quelques quartiers que quelques villages du Maghreb, bon, mais même et en Afrique, ce n'est pas peint en blanc non plus. Donc déjà, c'est assez surprenant cette volonté de transformation. Mais après, ce qui est intéressant de voir effectivement, c'est quel est la réalité, et c'est là où je veux en venir, la réalité, on peut dire la réalité scientifique de ce changement. Est-ce que c'est uniquement pour provoquer, pour montrer que les écologistes se sont passés par là, donc dans un désir de modifier notre patrimoine, de modifier notre histoire, parce que c'est ce qui est clairement exprimé. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit notre maire adjoint de Paris, dans la série américaine, Paris est une ville sans compte. Texte ni contrainte. C'est jouissif depuis son canapé, mais dans la réalité, et contrairement à ce que veulent nous expliquer certains conservateurs et adeptes de l'immobilisme urbain, qui cherchent à ériger de ce Paris façon Netflix un idéal, cette fable n'est ni désirable ni même viable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut modifier Paris. De toute force. Bon, alors, on va marquer une pause musicale et puis je vais revenir sur une critique technique, mais vous m'avez déjà entendu parler de cela, mais on va le voir d'une manière, là maintenant, un peu plus, en tout cas, disons, contextuelle, puisqu'il s'agit de Paris.
Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop. Tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne.
Je te le donne,
je te le donne, je te le donne, je te le donne. yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là.
Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas.
Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, je te le donne.
Après la pause musicale, nous allons revenir à ce Paris qui va être peint en blanc, ou du moins toutes les toitures de Paris, et on va changer la colorimétrie pour avoir une ville qui va être comme un village de vacances au Maghreb, du club Méditerranée. La nouvelle esthétique, mais au-delà de justement de l'ironie que je peux faire sur cela, nous allons parler du bien fondé scientifique. Bon, alors d'abord le blanc par rapport au noir. Alors c'est vrai, c'est quelque chose qui est indéniable, c'est que le blanc réfléchit et le noir absorbe la température. Bon, ceci étant, c'est le matériau qui fait la différence, et que entre une voiture noire et une voiture blanche, au bout d'un moment, la tôle prend la même température, même si la voiture blanche, du fait de la réverbération, met un peu plus de temps, nous ne sommes pas dans quelque chose qui est quand même particulièrement différent. Bon, alors ensuite la question est une question de matériaux, et le problème de la face extérieure dont le rôle est de protection. C'est pour ça, quand je parle de peinture qui va se dégrader, évidemment, alors, quand elle se dégrade, je vous dis pas, la peinture qui doit être relativement épaisse pour couvrir, elle va passer dans les eaux pluviales, dans les canalisations. Enfin bon, c'est quelque chose qui est aberrant et qui est dit avec, alors je ne sais pas si c'est de la perversité, de la naïveté, mais en tout cas c'est de l'incompétence totale. Et on peut se demander que fait ce garçon à des postes aussi importants. Ceci étant dit, on avait eu, soi-disant, une ingénieure chargée du climat à la ville de Paris, et qui proposait de faire, enfin je pense que c'est plus que proposer, ça va être fait, de faire des ombrières de je crois que c'était 35 mètres carrés, donc en aluminium et bois, qui vont mettre de l'ombre. Alors, le principe, c'était que il fait 15 degrés au-dessus et il fait du coup moins 15, enfin pas moins 15 dans l'absolu, mais il fait 15 degrés de moins sous l'ombrière. Mais c'est d'une bêtise absolue. La température, c'est la température de l'air, et la température de l'air, elle est la même au-dessus et au-dessous. Alors effectivement, quand on est abrité à l'ombre, on n'a pas l'impact du rayonnement solaire, mais bon, il suffit de mettre un chapeau à la limite. Et ça, ça n'a pas une grande incidence, puisqu'en fait, de toute manière, même la chaleur qui serait accumulée sur les voies ou l'espace minéral qui serait protégé, serait absorbé par l'ombrière. Donc on aurait, par exemple, la nuit, le même effet, et même, je pense, un effet beaucoup plus amplifié. Bien, alors, mais revenons aux matériaux de toiture. Alors effectivement, quand on parle d'isolation, effectivement, on peut penser qu'une bonne isolation va protéger, et c'est une réalité, de cette chaleur. Mais, je dirais, ça marcherait à Paris comme ça marche dans les grandes villes. On le sait que des toits, d'ailleurs, qui étaient souvent des combles qui étaient non aménagés pour l'habitation, sont récupérés aujourd'hui, et on a les moyens pour effectivement tempérer cette chaleur avec de l'isolation. Alors tout ça, ça marche bien dans les bâtiments anciens, et ça marche moins bien dans les bâtiments nouveaux. Ça marche dans les bâtiments anciens pour quelle raison? Pour la raison qu'il y a une masse importante qui est due aux matériaux, qui sont à Paris de la pierre, à Toulouse de la brique. Dans certains bâtiments modernes, ça va être des épaisseurs en béton, donc il y a une masse. Alors l'effet de la masse n'est pas un isolant en soi, mais disons que le temps de réchauffement étant de refroidissement, c'est pareil. D'ailleurs, par la faible conductibilité, fait qu'il y a un temps long pour que l'épaisseur, les murs se réchauffent. Donc, sachant que la chaleur est un cycle journalier, on a le frais de la nuit, et qui fait que le bâtiment peut respirer dans l'autre sens, évacuer sa chaleur, et de ce fait, on a des bâtiments qui sont plus confortables, des bâtiments anciens sont plus confortables que les bâtiments modernes par leur épaisseur et par leur effet de masse. Donc, quand j'entends dire, mais là c'est quelque chose que les journaux reprennent, que l'isolation, la surisolation que l'on préconise aujourd'hui sur des bâtiments que l'on va faire biosourcés, notamment en bois, qui vont être donc plus légers, et du fait que l'isolation va être mise sur l'extérieur, on ne veut pas avoir un mur qui porte et un autre mur également. Donc on a une masse beaucoup plus restreinte, puis il y a aussi cet anti-béton. Je voyais sur Facebook, on employait la danse du béton, comme s'il s'agissait de quelque chose qui était monstrueux. Le béton, c'est de la pierre liquide, avec du gravier, du sable et de l'eau. Voilà donc. Et puis, ça sèche, ça fait à peu près la même consistance, épaisseur et poids et masse que la pierre. Donc, ce que je disais sur les bâtiments actuels légers, les bâtiments légers, ils peuvent être super isolés, mais le problème est autre, puisqu'il ne va pas y avoir cet effet de régulation de tampon fait par la masse. le bâtiment. Évidemment, dans l'absolu, on peut avoir comme une bouteille thermos, on peut avoir le froid ou le chaud qui est conservé puisqu'il n'y aura pas d'échange du fait de l'isolation. L'isolation qui est légère, puisqu'en fait, le principe de l'isolation se fait par emprisonner de l'air. Et donc, n'ayant pas justement cette masse, mais la chaleur qui va être émise à l'intérieur, puisque on n'est pas dans des bouteilles thermos, on vit dans des logements. Donc les logements dans lesquels on vit, y a la chaleur, il y a la chaleur des corps humains, il y a la chaleur des ordinateurs, du four pour faire cuire, et de tous les appareils ménagers et autres qui font que le bâtiment se réchauffe. Et puis aussi le fait qu'on ouvre les fenêtres, il faut ventiler. Et c'est nécessaire de ventiler. On le sait avec le Covid notamment, que la ventilation est nécessaire. Alors la ventilation mécanique, c'est quand même pas très très rapide et efficace, et on est obligé de rentrer et de sortir également. On ne vit pas dans des boîtes fermées, donc on fait rentrer la chaleur ou on émet de la chaleur à l'intérieur. Et cette chaleur, justement, elle est bloquée par l'isolation. Donc c'est un phénomène que les gens qui habitent des bâtiments modernes, disons, des bâtiments qui ne sont pas qui n'ont pas cette pesanteur, cette épaisseur des bâtiments plus anciens, ou alors des bâtiments en béton ou en briques récents, eh bien, sont dans des situations d'inconfort incroyables. C'est-à-dire que ce qui est efficace l'hiver ne l'est pas l'été. Donc, aujourd'hui, au nom de la crise énergétique, du réchauffement climatique, on construit des bâtiments qui vont être invivables. Et de nombreuses personnes, c'est facile à vérifier, qui vivent ça, vraiment comme un enfer, parce que les bâtiments n'ont plus de ventilation, ils ont des triples vitrages, et on n'a plus, disons, la ventilation naturelle qui se faisait souvent par les dessous de portes, parce qu'aujourd'hui, on est sur des positions extrêmes. Donc, des fois, le mieux est la nuit du bien, et dans ce cas présent, c'est un phénomène qui est totalement négatif. Alors, c'est quelque chose qui me paraît important aujourd'hui de voir on peut dire, ce mythe de la couleur qui va changer, que l'ombre va changer. Et je vais finir sur une note qui est d'une telle banalité, c'est que Béliard parle que les villes ne sont pas adaptées au réchauffement climatique, mais évidemment que le sont les villes adaptées au réchauffement, parce que ce soit le réchauffement climatique qui va advenir ou qui est en train d'advenir, mais il y a des pays ou des régions dans lesquelles la chaleur, elle existe depuis longtemps. Alors déjà, le sud de la France, c'est différent de Paris et du Nord, mais il y a des pays dans le monde, dans l'hémisphère sud, où la chaleur est vraiment très forte. Ne serait-ce que à l'Espagne et dans le sud de l'Espagne, il fait très très chaud, comme je disais, le Maghreb, mais les villes, au contraire, des villes comme Fès, sont des villes dans lesquelles il y a une forte densité, et il y a des ruelles fraîches, j'en ai déjà parlé, il y a justement des phénomènes assez intelligents qui peuvent être faits avec l'évaporation de l'eau, créer des courants d'air et ça, les architectes savent le faire. C'est relativement simple, ça ne nécessite aucune énergie, et on peut avoir, alors là, par le phénomène naturel l'évaporation, on peut avoir des bâtiments qui se rafraîchissent, et à d'avoir des rues qui sont ombragées, avec des cours intérieurs, donc une architecture qui est adaptée. Donc on n'invente rien, Et il n'y a pas besoin de faire la révolution dont parle M. Béliard, parce que Paris, même si la température monte, comme on nous le prédit, de 2 ou 3 degrés, on sera quand même loin des villes africaines ou du Moyen-Orient. Donc, ces villes-là savent très bien s'adapter à la chaleur. Mais il s'agit aussi de l'Amérique du Sud, de l'Inde, je veux dire, une grande partie de la population du monde vit dans des températures qui sont supérieures à celles de Paris. Donc, Emily in Paris a été le sujet de Monsieur Béliard. Je pense que sa chronique est non seulement imbécile, mais surtout elle est fausse sur un plan factuel, sur un plan, on peut dire, je voudrais pas dire scientifique, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est du bon sens et même si on peut l'expliquer par la science, en tout cas des choses que tout le monde peut voir avec son simple bon sens. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine.